cette Égypte-là, dans la situation où elle est aujourd'hui, pose entre guillemets moins de problèmes pour une intégration, dans le sens où il y a 7 ou 8 ans, cette Égypte était tellement avancée sur le plan industriel que la plupart des produits égyptiens, en fait, ouvraient un boulevard pour tous ces pays-là. Et du coup, on se retrouvait avec l'Afrique du Sud, l'Égypte qui envahissait en fait toute la zone, et les autres, Kenya et autres, qui devenaient finalement des sous-traitants, avec quelques exceptions ici et là. Ce qui pose un problème d'industrialisation de l'ensemble de la zone, et plutôt une sorte d'effet de levier, voilà, pour les pays les plus avancés dans le domaine industriel.
Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ne font pas partie de ce marché?
Non, ils ne font pas partie. Cette zone que vous venez de citer est normalement au niveau de la sous-région, les zones qui auraient dû créer en fait la sous-région du monde arabe en fait. Mais l'union du Maghreb arabe, mais ça n'a jamais fonctionné en fait. Le problème africain n'est pas la libre-échange, le problème africain est le non-respect des engagements que nous prenons. Sachez que quand vous parlez de libre-échange, prenons quatre éléments très importants. Le capital, les biens, les services et les personnes. Vous voyez bien que le capital, en gros, peut circuler d'un endroit à l'autre en Afrique. Vous pouvez investir plus ou moins comme vous voulez, quelques contraintes, quelques non-respects ici et là, mais quand même le capital circule. Les biens, envoyer un colis d'un endroit à l'autre, vous voyez déjà toutes les difficultés que vous avez. Les services, c'est plus ou moins la même chose, en pire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de services à offrir et des services qui répondent dans les temps et qui répondent en qualité. Et bien sûr, le prix. Et le dernier, je l'ai mis pour la fin, les personnes. Demander à circuler un Égyptien au Rwanda, un Rwanda au Gabon, au Gabonais vers l'Afrique du Sud, et vous rentrez dans le problème des visas. Donc comment peut-on parler de ce marché ouvert pour en gros le capital et quasiment interdit pour les personnes? Nous sommes en train de créer une communauté, oui, mais en fait, ce sont souvent des succursales de sociétés occidentales.
Ce marché constituerait 1000 milliards de dollars. Et
c'est la théorie.
Vous n'y croyez pas?
Non, c'est la théorie. Ce n'est pas que je ne crois pas que c'est un grand marché. Ce que je ne supporte pas, et qu'aucun économiste sérieux africain ne doit accepter, c'est que quand vous ouvrez ce marché du nord au sud, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand vous ne fabriquez pas ou vous fabriquez que 8 ou 7 ou 8% de produits? C'est-à-dire que la plupart des produits industriels que vous allez avoir vont venir d'ailleurs, États-Unis, Europe, pays de l'Est, et surtout la Chine et les pays asiatiques. Donc nous allons en fait permettre aux Asiatiques de pouvoir circuler librement. Et donc nous bloquons le développement, le démarrage, même l'émergence de notre industrie africaine.
Est-ce qu'on ne peut pas d'abord créer ce marché et ensuite procéder à l'industrialisation?
Mais c'est l'erreur, c'est la charrue avant les bœufs. Mais bien sûr que vous pouvez le faire, mais mettez la charrue, mettez le bœuf après, vous allez voir si votre champ sera labouré. Attention, faites très attention, il faut faire très attention à l'ordre des choses. Vous ne pouvez pas ouvrir un marché quand vous n'avez aucune chance de pouvoir rentrer sur ce marché, notamment dans les chaînes de valeur. Regardez ce qu'ils vous disent tout le temps, ce sont des chaînes de valeur globales, internationales. Peu de personnes parlent des chaînes de valeur locales. C'est très très important. Il faut que les personnes qui puissent trouver un travail, et pour trouver ce travail, il faut que les productions locales, quelles qu'elles soient ce qu'ils font, puissent être achetées à des prix compétitifs, localement d'abord, et si excédent, vers l'exportation. Non, nous faisons le contraire. Nous ouvrons d'abord le marché, ce qui veut dire que demain matin, quand je veux faire une maison, mes lavabos, mes salles de bain, mes WC en céramique viendront tous de l'extérieur. Alors que moi, je possède l'argile qui est gratuite, que je peux faire la brique et la terre cuite, et que je peux faire donc ces lavabos localement et les vendre aussi localement.
Pour créer un marché qui profite aux populations et qui permette le développement, quelle est la démarche à suivre?
On n'a pas besoin de créer le marché, on a besoin tout simplement de s'organiser qu'il y ait un pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient un emploi, il faut que le système bancaire marche et qu'il puisse vous donner un crédit, et que vous ayez un emploi, vous puissiez donc travailler sur 20-25 ans, plus ou moins régulièrement, et que vous puissiez rembourser ce crédit. À partir de là, vous avez créé une offre. Et comme tout le monde a besoin de pratiquement tout, ben, les produits peuvent se fabriquer maintenant et se vendre. C'est ça le fondement du capitalisme d'ailleurs.